Bienvenue dans La Route Digitale, une initiative de Salesforce et d'EcoConnect. Nous allons revenir, au travers de différentes histoires, sur les raisons et la manière dont les entreprises abordent la digitalisation.
Pour piloter une activité et une équipe de cette taille-là, moi je ne peux pas m'en sortir avec un simple GSM et un tableau Excel, quoi.
La menace est réelle dans tous les secteurs. Ceux qui n'investissent pas dans la transformation digitale prendront du retard. Mais dans le même temps, la relation avec les clients et les employés se complexifie. Heureusement, les données et l'intelligence artificielle peuvent considérablement faciliter cette transition.
Si on veut réaliser nos ambitions de croissance, il faut y mettre le paquet sur le digital, sur l'automatisation.
Je suis Nadia Bourria et dans cette série de podcasts, j'en parlerai avec ceux qui en sont convaincus. Nous débutons aujourd'hui avec Jürgen Vanhoenacker, qui a récemment accompagné son équipe de vente dans un processus de digitalisation chez Lombard International Assurance en tant que responsable du développement commercial en Europe. Bonjour Jürgen et bienvenue dans ce studio.
Bonjour Nadia.
Jürgen, votre histoire est intéressante parce que votre secteur, la gestion du patrimoine, a beaucoup changé au fil des années. Quels sont aujourd'hui les changements que vous voyez dans le secteur et chez Lombard International Assurance en particulier ?
Tout à fait Nadia. Peut-être, si vous permettez, je vais essayer de brièvement positionner un petit peu la société. Donc on a une compagnie d'assurance, on fait des assurances vie de branche 23. Et en fait, on est spécialisé à développer des solutions assurantielles pour une clientèle haut de gamme, sophistiquée et fortunée. Et en fait, c'est la seule chose qu'on fait. Donc notre business model sur papier est très simple, hein. Donc on est très niche, on est très spécialisé. Maintenant, on a développé ce modèle à travers 16 pays en Europe, mais depuis un certain temps aussi, on est actif sur les Amériques du Nord, les Amériques latines. On a récemment aussi créé des bureaux à Hong Kong et Singapour. Donc, l'activité de Lombard International Assurance est devenue une activité mondiale. Ce qui est peut-être important à souligner, que notre business model, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un business to consumer, B2B2C, ce qui veut dire que nos équipes commerciaux vont pas activement à leur niveau prospecter des clients finaux, mais on va plutôt travailler avec un réseau des partenaires de distribution spécialisés dans le domaine de la gestion patrimoine. Donc, ce sont des banques privées, ce sont des gestionnaires de fonds et des family office. Donc, c'est assez divers. Donc, on fait ça d'une manière, ce qu'on appelle architecture ouverte. Nous, en quelque sorte, notre métier, c'est de vraiment développer et réaliser les solutions sur le plan assurance. Mais tout le reste, on va en quelque sorte composer avec nos partenaires professionnels. Donc, on travaille avec plus de 1000 gestionnaires de fortune. On travaille avec 250 banques dépositaires autour du monde. Et donc, c'est eux qui vont apporter toute l'expertise, je dirais, au niveau de la gestion d'actifs, les types d'actifs, les profils d'investissement. Et nous, on va en quelque sorte moduler tout ça dans une planification patrimoniale et successorale holistique qui sera valable pour nos clients, pas uniquement aujourd'hui, demain, l'année prochaine, mais pour de longues années, voire plusieurs générations.
Avec ce type de clientèle fortunée, donc disposant de tels moyens, les enjeux sont très importants, avec une faible marge d'erreur. C'est un sacré défi, non ?
C'est un sacré défi. Il faut bien comprendre aussi de les solutions que nous, on va développer ensemble avec ces clients et leurs conseillers. C'est du vraiment sur mesure. C'est à la carte. Donc, à la base, on passe beaucoup de temps avec les partenaires, avec les clients, avec toute la famille, en quelque sorte, à bien faire l'inventaire de ce qu'ils ont besoin, quelles sont les priorités, quels sont les problèmes. Et on essaye d'anticiper un petit peu ce qui va se produire dans le futur. Avec toutes ces informations, on va effectivement développer une solution assurantielle qui va répondre au maximum de ses besoins. Ces gens, de toute façon, sont très exigeants par rapport à eux-mêmes. Vous pouvez avoir une idée géniale, mais par la suite, c'est la discipline professionnelle et business qui prévalait. Et par le même biais, effectivement, ils vont refléter ces attentes et ces exigences vers nous et vers des autres partenaires professionnels qui travaillent avec. Donc, il y a le marge d'erreur est très très minime. C'est aussi nos partenaires professionnels qui mettent la barre très haut à ce qu'ils attendent de Lombard sur la rapidité, l'accessibilité, la qualité des données, la qualité des services, etc., etc. Et pour revenir un petit peu à ce business model où on travaille avec des centaines de partenaires, avec des centaines de banques et plus d'un millier, je dirais des gestionnaires de fortune, ça veut dire aussi inhérent dans notre business model, il y a une complexité énorme, ce qui veut dire si on veut faire grandir la société, ben on doit absolument investir de façon stratégique dans la digitalisation.
Le fait d'être basé au Luxembourg, est-ce que ça vous donne pas un avantage? Parce que voilà, la place de Luxembourg, on la connaît en termes bancaires, en termes d'assurance. Est-ce que c'est important pour vous d'être au Grand-Duché du Luxembourg?
Ça a été pour nous extrêmement important pour quelques raisons diverses. À la base, il y a un élément réglementaire juridique pour lequel on a créé la société à Luxembourg, parce que Luxembourg était le premier pays qui a transposé la directive assurance dans la législation locale, qui permettait une compagnie comme Lombard de s'installer à Luxembourg et de vendre et de faire un développement commercial à travers toute l'Europe. Donc ça, c'était à la base, à l'origine, la raison pour laquelle Lombard est implanté à Luxembourg. Maintenant, Luxembourg, depuis 20-30 ans, a développé énormément. C'est vraiment devenu un centre high-tech d'un point de vue pas uniquement des services financiers, mais aussi sur le fintech. Évidemment, il y a toute l'activité de la Commission européenne aussi. C'est une communauté, c'est un écosystème très international, très diversifié, où une société comme Lombard, qui travaille sur 16 pays en Europe, qui a besoin des gens, des Finlandais, des Suédois, des Espagnols, des Portugais, nous, on peut trouver ces talents et ces expertises localement à Luxembourg, parce que c'est une communauté tellement internationale. Et finalement, ce qui est très intéressant pour un professionnel comme Lombard à Luxembourg, il y a tout le cadre réglementaire, gouvernemental qui est très bien optimisé. On connaisse tout un peu les soucis que nous, on a ici en Belgique par rapport aux politiques. Bah, à Luxembourg, ça n'existe pas. Il y a le gouvernement qui regarde à gérer le pays comme une entreprise. Et donc la proximité, l'accessibilité avec les régulateurs, les autorités, l'expertise en service public est énorme. Et donc tout ça permet à Luxembourg de rester quand même, dans certains domaines, au top du top mondial, quoi.
Venons-en à la transition digitale. Comment est-ce que vous avez abordé cette question ?
Très vite, on était un petit peu avec le dos contre le mur. On s'est aperçu que l'ensemble des processus qui étaient encore fort manuels, quand on avait une croissance, on a toujours eu une croissance assez importante depuis toute l'histoire Lombard, mais il y avait certaines tâches manuelles où finalement on ne pouvait pas les compléter, si ce n'est que de rester jusqu'à 11 heures le soir et d'avoir toute une équipe qui se pointe le samedi dimanche pour. Donc on a très vite réalisé que si on veut réaliser nos ambitions de croissance au moyen et long terme, bah il faut y mettre le paquet sur le digital, sur l'automatisation. Et c'est ce qu'on a fait depuis toujours. Pour moi, pour piloter une activité et une équipe de cette taille-là, moi, je peux pas m'en sortir avec un simple GSM et un tableau Excel, quoi. Donc, relativement vite, on a sauté sur l'idée stratégique d'implanter un CRM.
Et alors, comment vous avez démarré cette collaboration? Vous avez utilisé plein d'outils. Et pourquoi, comment celui-là? Qu'est-ce qui vous a attiré?
Ben moi, je suis quelqu'un qui est très pragmatique. Dans une vie professionnelle antérieure, j'étais consultant, un cabinet de consultant. J'ai vu des implémentations des systèmes CRM douteux, je dirais, qui coûtaient des millions, mais finalement qui aboutaient pas aux résultats financiers. Il faut qu'on démarre de façon pragmatique avec les bases. Donc la première chose qu'on a fait, on a commencé à faire une cartographie de notre sales process, de tout le processus de vente, le moment où on organise un événement marketing événementiel jusqu'au moment qu'on va conclure un contrat. Donc on a tout mis à plat, on a essayé de calibrer et regarder dans le processus est-ce qu'il y a certaines choses d'un point de vue processus qu'il faut changer avant de sauter sur l'automatisation à travers de Salesforce. Donc ça, c'était la première étape. L'équipe Salesforce était très utile dans toute cet exercice aussi. Et puis on a dit, écoutez, on va commencer doucement. Donc moi, j'avais pas l'ambition après 12 mois d'avoir le Space Shuttle Salesforce. Non, moi j'ai dit, on va commencer doucement.
Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous avez réussi à avoir quelque chose de sur mesure.
D'abord, on commence avec du sur mesure, de bien intégrer le processus de vente dans l'outil Salesforce. Et le processus de vente de Lombard n'est pas le même que le processus de vente d'une autre compagnie d'assurance, même de nos concurrents. Donc, il y a des spécificités qu'il faut introduire. Ce qui est très important dans ça, il y a un shift culturel qu'il faut faciliter auprès d'une équipe commerciale. Parce que une réaction typique et classique qu'on a des gens commerciaux par rapport à un CRM, ah ben, Jürgen, vous avez maintenant installé un système pour me contrôler. Donc nous, on a essayé de démarrer avec Salesforce en leur demandant de saisir l'ensemble des informations et des données tout à travers du processus de vente, mais en essayant de démontrer que c'est pas uniquement pour l'avantage de Jürgen, mais aussi pour l'avantage de eux-mêmes, de leur donner un outil qui va leur permettre d'avoir une visibilité en temps réel sur leur pipeline, sur leur dossier en suspens, où est-ce qu'il se trouve leur dossier, quels sont les clients que je dois contacter demain, quels sont les partenaires que je dois organiser un meeting dans 2 semaines, etc., etc. Donc on a commencé avec la base où chaque opportunité commerciale est saisie dans l'outil Salesforce. Et puis de là, on a commencé à mettre des couches supplémentaires. Donc maintenant, on est arrivé, après 4-5 ans, à un outil CRM assez puissant, je dirais, et assez sophistiqué. Ce qui veut dire qu'une fois un dossier est signé et réalisé, ben, il y a un interfaçage de certaines données en Salesforce automatique dans les systèmes opérationnels qui évite donc mes collègues dans les départements opérationnels de faire un double et triple saisie des mêmes données. Donc on commence maintenant vraiment à perfectionner l'outil. On commence à avoir maintenant une base de données assez puissante qui me permet aussi de faire maintenant certaines analyses me permettant de faire une prévision, un forecasting nettement plus fine, nettement plus correcte qu'avant.
Alors, on comprend que l'outil est sophistiqué, qui vous permet vraiment de gagner du temps, etc. Mais est-ce que ça a apporté ses fruits? Et est-ce que ça a été rapide?
Je pense qu'il faut être content de faire des petits succès l'un après l'autre. Et finalement, ce qui moi m'intéresse, c'est pas que mes gens commerciaux passent du temps fou à faire l'administration et des opérations. Non, moi je veux que ces gens sont vis-à-vis des partenaires, sont vis-à-vis des clients qui sont capables de développer leur confiance, l'empathie et finalement qu'on est capable de leur aider nos clients dans leur planification successorale. Et je pense que Salesforce nous permet jusqu'à un certain niveau effectivement de libérer cette capacité afin que les commerciaux sont capables de passer leur temps aux choses qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire le développement commercial et pas faire des paperasses et administration à l'infini.
Alors, à vous entendre, on a l'impression que cette transition digitale a été simple, limpide, ça coule, quoi.
Non, c'est beaucoup, qu'on dit ça en français, trial and error. Donc, il y a aussi certaines choses en Salesforce. Moi, je me souviens, avec tout mon enthousiasme analytique au début, je me souviens encore la situation où je travaillais avec mon assistante, qui était spécialiste Salesforce d'ailleurs, où j'étais en train de développer des tableaux de bord très sophistiqués, mais finalement c'était pas utile, et deuxièmement c'était pas possible de le faire. Donc à nouveau, je pense qu'il faut remettre les choses à plat de temps en temps, essayer de bien prendre un peu de recul, essayer de bien réfléchir qu'est-ce qu'on veut atteindre avec Salesforce. L'outil permet de faire certaines choses. L'outil ne permet pas de faire certaines choses. Et je pense pas qu'il faut avoir l'ambition de transformer l'outil Salesforce en quelque sorte qui va jamais aboutir. Une initiative très récente qu'on a maintenant lancée, on va maintenant utiliser beaucoup plus intensivement Salesforce pour des fins de gérer et de coordonner nos partenaires de distribution, mais qui travaillent aussi à l'échelle international.
Donc ça veut dire que vous êtes toujours en train de développer l'outil. On n'est pas à un rythme de croisière, mais on est en croissance.
Franchement, je pense que ça va jamais arrêter. Je pense qu'aussi Salesforce de leur côté, ils sont perpétuellement en train de réfléchir comment ils peuvent calibrer et augmenter la fonctionnalité dans le système. Et voilà, je pense que nous, on doit suivre la même tendance.
Est-ce que vous pensez que vous seriez arrivé au même résultat aujourd'hui sans cet outil?
D'un point de vue pilotage de l'équipe commerciale, impossible. On peut pas réaliser une trajectoire de croissance comme Lombard, sans un outil comme Salesforce, c'est clair.
Est-ce que vous avez le sentiment que Lombard International Assurance est mieux préparé à aborder l'avenir avec ce genre d'outils?
Moi, franchement, oui. Parce que, mis à part Salesforce, on a aussi lancé tout un programme digital qu'on a lancé depuis, 4-5 ans, à travers une plateforme qu'on appelle Connect, Lombard Connect, qui est toute une plateforme digitale qui permet les partenaires et les clients de consulter leur police d'assurance, mais pas uniquement en consultation. Maintenant, on est en train de déployer une fonctionnalité transactionnelle. Quand les clients veulent faire un rachat de leur police, quand ils veulent faire des changements au niveau des bénéficiaires, etc., etc. Oui, je suis relativement confortable. Je me base sur le fait que le feedback qu'on reçoit des partenaires et des clients est quand même très positif. Il faut continuer à investir dans toute cette infrastructure technologique. Tout ça, c'est du work in progress. C'est pas quelque chose qu'on a déjà consolidé dans tous les processus aujourd'hui. Mais ça donne certaines perspectives, comment on peut développer de façon nettement plus sophistiquée une activité commerciale.
Donc c'est un outil évolutif et quelles sont vos visions pour l'avenir?
Dans notre métier, d'un point de vue des systèmes comme Salesforce, à nouveau, je pense Salesforce va pas remplacer l'activité de vente en tant que telle. Je pense pas qu'il faut se faire des illusions, surtout dans notre métier. Notre métier, c'est avant tout, c'est du people management. Donc, nous, à la base, on doit être capable de créer un lien de confiance avec nos partenaires professionnels, d'autant plus avec les clients pour lesquels on va développer une solution. Donc, développer une confiance, c'est très compliqué de faire ça à travers une interface digitale. On vend pas des écrans de télé qu'on peut commander sur Amazon et tout ça. Chez nous, ça marche pas. Donc nous, on doit en quelque sorte toujours avoir cette opportunité d'avoir des interactions personnelles en quelque sorte avec nos interlocuteurs. Ceci dit, une fois qu'on a ce lien de confiance, il y a clairement des exigences au niveau des partenaires professionnels et de la clientèle d'avoir l'accès digital vis-à-vis Lombard. Nos clients veulent 24/7 avoir accès sur les infos sur leur contrat d'assurance. Nos partenaires veulent avoir accès et avoir un résumé de toutes les transactions en suspens, de voir où ils se trouvent dans le processus, quand ils doivent envoyer l'un ou l'autre information. Donc, je pense que le digital est devenu, pour beaucoup de nos interlocuteurs, un hygiene factor. Donc, c'est une nécessité de base afin d'être capable de fonctionner dans notre métier, afin d'être capable de faire développer le commercial, quoi.
Jürgen, alors c'est une question qu'on n'aime pas trop en général, mais comment vous vous situez par rapport à vos concurrents et est-ce que cette transformation digitale vous permet de mieux vous positionner par rapport à eux?
C'est le $1 million question, Nadia. Normalement, on peut pas se comparer avec les concurrents, mais je vais être honnête, je le fais quand même dans mon petit coin. C'est pas toujours évident d'avoir la visibilité, la transparence que les autres compagnies d'assurance font. Maintenant, moi, je m'appuie sur les réactions que je reçois de nos clients, de nos partenaires qui sont très enthousiastes et très positives, jusqu'à un point qu'ils nous demandent d'avoir des fonctionnalités supplémentaires qu'on n'est presque pas capable de suivre. Ceci dit, je pense que tout le processus de la transformation digitale, c'est un processus perpétuel. Je pense que ça va jamais s'arrêter et pour nous, c'est devenu un élément stratégique très, 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 très important. Ça fait du top de l'agenda sur tous les comités de direction, sur tous les board meetings. Donc, pour nous, collectivement, avec toute la direction, pour nous, c'est devenu une priorité numéro un, mais aussi pour nos gens. Parce qu'on sait qu'en leur donnant des outils digitales, pas uniquement d'un point de vue l'équipe commerciale, mais aussi en back-office, on va leur faciliter leur vie au quotidien aussi. On veut pas avoir des gens qui passent des heures devant une photocopieuse. De ce point de vue-là, je pense que le sujet de toute la transformation digitale va être là pour X années, bien au-delà quand moi je suis plus là chez Lombard.
C'est un investissement qui était important. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'aujourd'hui, en gros, est-ce que vous regrettez ou vous regrettez pas? Je pense que la réponse va être que vous regrettez pas, mais je pense que la question financière, elle est toujours là.
Oui, bah, il est clair que Lombard, on n'est pas une charité. Donc, si on demande à nos actionnaires d'avoir un budget d'investissement dans le digital, bah, il est clair qu'on n'a pas le chèque blanco à remplir. Il faut créer tout un business case et toute une argumentation pourquoi on veut investir autant dans l'un ou l'autre outil digital. Et par la suite, oui, ça fait objet d'une discussion assez animée au comité de direction et au comité de conseil, c'est clair. Mais c'est comme ça qu'il faut gérer une société. Maintenant, tout le monde est convaincu que, surtout dans notre métier et dans notre business, il faut y mettre l'attention stratégique et il faut effectivement être capable de libérer des budgets pour aller de l'avant. Comment on peut éviter la situation où c'est le partenaire qui doit nous demander quelque chose et qu'on n'est pas capable de proactivement développer quelque chose et de leur présenter afin que eux ils seront encore plus enthousiasmés par rapport à ce qu'on fait pour eux, quoi.
Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour le futur. Merci d'avoir partagé l'histoire de Lombard International Assurance.
Merci Nadia, c'était vraiment un plaisir de partager.
Dans le prochain épisode, nous examinerons de plus près l'importance croissante des données. Et qui de mieux pour en parler que Salesforce, Marc Swerlo, country leader Belgium et Luxembourg, et Ibrahim Ouassiri, CEO de Molangeek, nous parlerons de leur parcours numérique pour attirer de nouveaux talents. Pour ne rien louper de cette conversation, abonnez-vous dès maintenant à La Route Digitale sur votre application de podcast préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.